Abraham, étranger. Auteur, André Gibert. La première chose qui nous soit rapportée de la vie de foi d'Abraham est qu'il sortit, Genèse chapitre 11 verset 31, avec les siens, du pays de sa naissance, savoir Ur des Chaldéens. Va-t'en de ton pays, et de ta parenté, Genèse chapitre 12 verset 1, lui avait dit l'Éternel. Et il s'en alla, ne sachant où il allait, Hébreux chapitre 11 verset 8. Désormais, il n'avait plus de patrie terrestre. S'il s'était souvenu de celle d'où il était sorti, il aurait eu du temps pour y retourner, Hébreux chapitre 11 verset 15. Mais il n'y retourna point, et quand il s'agit de trouver une épouse à Isaac, il la fit sortir à son tour de cette patrie d'origine, en interdisant expressément qu'Isaac y retournât. Sa vie connut bien des incidents, des épreuves, des défaillances, mais à travers tout elle témoigna qu'il désirait une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, Hébreux chapitre 11 verset 16. Il s'en alla au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, Hébreux chapitre 11 verset 8. Il en reçut la promesse pour sa semence. Il vécut, spirituellement, de cette promesse. Et il mourut dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, Hébreux chapitre 11 verset 13. Il demeure ainsi, en exemple pour tous les âges, le croyant Abraham, Galates chapitre 3 verset 9, et il a pu être appelé l'ami de Dieu, 2 Chroniques chapitre 20 verset 7, Ésaïe chapitre 41 verset 8, et Jacques chapitre 2 verset 23. Nous, chrétiens, sommes bénis avec lui, bien que nous ayons reçu plus que lui. Nous possédons l'esprit d'adoption, nous connaissons Dieu comme Père. L'objet de notre foi est la personne de Christ, et nous sommes accomplis en lui. Colossiens chapitre 2 verset 10. Mais, si riche que soit la part des chrétiens, eux aussi ne font après tout que marcher sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham. Romains chapitre 4 verset 12. Il vécut en étranger sur la terre, qui cependant lui appartenait par la promesse. Nous, nous sommes étrangers et forains sur une terre qui cependant appartient en héritage à celui dont nous sommes les co-héritiers, héritage dans la possession duquel il n'est pas encore entré et où nous souffrons avec lui. Romains chapitre 8 verset 17. Il faut avoir saisi cela pour comprendre comment le chrétien doit vivre dans le monde. Mais, l'ayant saisi, nous manquons à notre vocation si nous nous conformons à ce monde. Comme Abraham, il nous faut d'abord sortir, puis vivre comme dans une terre étrangère, et y vivre pas plus en naturalisé qu'en naturel, mais en étranger. Le Cananéen et le Phérésien habitaient alors dans le pays, Genèse chapitre 13 verset 7, et d'autres peuples avec eux, chapitre 15 verset 20. Ils devaient l'habiter encore un certain temps, car l'iniquité des Amoréens n'était pas encore venue à son comble. Genèse chapitre 15 verset 16. La descendance d'Abraham, il le savait, Dieu le lui avait dit, ne devait entrer en possession de ce pays que 400 ans plus tard. Abraham reconnaît cette situation, et il vit en conséquence. Dieu l'enrichit abondamment en biens matériels, mais, chose digne de remarque, ses richesses n'accaparent point son cœur, elles ne l'amènent pas à s'établir ici-bas ni à y rechercher les emplacements les plus favorables. Il abandonne la plaine fertile à Lot, restant, lui, le nomade des plateaux et de la montagne. Quand il lui faudra enterrer Sarah, il insistera pour payer la terre à son prix, cette terre qui est sienne. Il ne possédera en propre, et ses descendants jusqu'à Josué ne possédèrent en propre, dans le pays de Canaan, que le champ et la caverne, acquis comme sépulcre, lieu du triomphe momentané de la mort. Mais que leur foi marquait comme le lieu du triomphe éternel de la vie par la résurrection. En attendant, ils pouvaient dire au fils de Heth, « Je suis étranger, habitant parmi vous », chapitre 23 verset 4. Le pays allait son train. Il avait ses rois, ses villes, ses mœurs, ses juges. Il avait ses temps de prospérité et ses famines, ses périodes de paix et ses guerres, il avait son commerce, avec l'argent ayant cours entre les marchands, Genèse chapitre 23 verset 16. On y trouvait de bonnes choses, et on y trouvait les pires. Un Melchizédek qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Un Abimélec, roi de Guérar, montrait plus de crainte de Dieu qu'Abraham ne le supposait, et il pouvait même adresser des reproches au patriarche en faute. Cela n'atténuait pas l'iniquité générale. Les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel, Genèse chapitre 13 verset 13, et en Canaan même l'iniquité des Amoréens tendait vers son point culminant. Aussi, le jugement devait-il les atteindre tous, les gens du haut pays après les gens de la plaine. Dieu avait son temps, fixé avec patience, pour intervenir quand la situation serait manifestement sans remède, chapitre 18 verset 20 et 21. Mais Abraham, au milieu de cet état de choses, vit en étranger. L'Éternel est sa part, son bouclier et sa très grande récompense, Genèse chapitre 15 verset 1. Comment l'ami de Dieu s'ingérerait-il dans la conduite d'un monde? Il laisse Lot s'y établir jusqu'à s'asseoir à la porte de Sodome. Ses yeux à lui sont tournés vers la cité qui a les fondements, Hébreux chapitre 11 verset 10. Toutes ces choses sont bien connues, comme principe, parmi nous. Mais souvent, lorsqu'on insiste sur la vocation du chrétien, étranger ici-bas parce qu'il est déjà du ciel, on s'attire le reproche d'égoïsme. Vous vous mettez à part, s'entend-on dire, pour jouir de vos bénédictions, et vous vous désintéressez du sort de cette humanité qui peine sur la terre. Vous pourriez jouer un rôle important et bienfaisant dans la gestion de la société, et vous l'abandonnez. Les sollicitations s'accompagnent volontiers de flatteries. Vous êtes sage, éclairé, vous exerceriez une action si utile, vous, une élite morale. Pour des gens de votre valeur, se détourner des affaires publiques est une trahison. Il vaut la peine d'y regarder de près. Le rôle dévolu aux enfants de Dieu dans ce monde est en réalité beaucoup plus grand qu'eux-mêmes ne le pensent généralement. Que Dieu ait des enfants ici-bas pourrait-il être quelque chose de peu d'importance? Vous êtes le sel de la terre, Matthieu chapitre 5 verset 13, disait d'autre part Jésus à ses disciples. Le fait même de leur présence est capital quant à l'histoire même de ce monde. C'en est comme un ressort caché. Tant que Lot était à Sodome, les anges ne pouvaient rien contre la ville. Le jugement destructeur attendait jusqu'à ce que cet homme, qui était injuste, si inconséquent qu'il se fût montré, eût été mis en sûreté, chapitre 19 verset 22. Aujourd'hui, ce qui retient les forces du mal et empêche le plein développement du mystère d'iniquité est certainement en rapport avec le maintien, sur la terre, de l'Église, habitation de Dieu par l'Esprit. Et celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 et 7, en fait, jusqu'à l'enlèvement de cette Église. S'il existe encore une société organisée, un gouvernement sous une forme ou sous une autre, c'est parce qu'il y a sur cette scène l'Assemblée de Dieu à laquelle, jour après jour, il ajoute de nouveaux éléments. Vous êtes le sel de la terre, un principe de conservation qui retarde une corruption d'ailleurs fatale. Est-ce à dire que nous n'ayons que ce rôle négatif, statique? À Dieu ne plaise. Il ne laisse pas ses enfants ici-bas pour y être de purs contemplatifs. De la chambre fermée où Jésus ressuscité se rencontre avec les siens pour leur paix et leur joie, il les envoie vers ce monde, comme le Père l'avait envoyé, Jean chapitre 20 verset 21, et chapitre 17 verset 18. Il est clair qu'ils ont à y faire le bien et à y pratiquer la justice. Que votre lumière luise devant les hommes, cela entraîne qu'ils voient vos bonnes œuvres, Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16, ces bonnes œuvres dans lesquelles ceux qui ont cru Dieu doivent s'appliquer à être les premiers. Tite chapitre 3 verset 8. Comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi, Galates chapitre 6 verset 10. Un chrétien qui, alléguant qu'il a le privilège de servir Dieu par le culte en esprit et en vérité, refuserait de soulager les misères qu'il côtoie, ou de traiter avec équité ceux qui l'emploient. Et se laisserait dépasser dans ce domaine et dans d'autres analogues par des inconvertis, ce chrétien se montrerait coupablement éloigné de son maître et de ses enseignements. Mais en quelle qualité devons-nous accomplir un tel service ? Comme appartenant encore au monde, ou comme en ayant été arraché? Comme associé à ce monde, ou comme uni à un Christ qui s'est sanctifié lui-même pour les siens, Jean chapitre 17 versets 18 et 19. Entre lui et le monde, il y aura toujours sa croix, par laquelle, disait l'apôtre, le monde m'est crucifié, et moi au monde, Galates chapitre 6 verset 14. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction est une obligation impérieuse, mais se conserver pur du monde constitue l'autre aspect du service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, Jacques chapitre 1 verset 27. Les traces que nous avons à suivre sont celles de celui qui a fait le bien, en passant de lieu en lieu, Actes chapitre 10 verset 38, lui, le divin étranger. Elles nous conduiront immanquablement à nous trouver en opposition avec un monde qu'il a rejeté. Son royaume n'est pas d'ici-bas. On voudrait que les chrétiens emploient leur christianisme comme une force morale au service d'une entreprise d'amélioration de cette terre. C'est oublier que le monde est régi par de tout autres principes que ceux de Christ. Qu'on y rencontre çà et là quelques craintes de Dieu, que le Seigneur y est des siens, connu de lui, dans toutes sortes de milieux, cela n'enlève rien à son état général. Pas plus qu'un Melchizedek ou un Abimélec ne changeait quelque chose à la culpabilité de Canaan. Le train de ce monde est celui de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, Éphésiens chapitre 2 verset 2. S'y conformer, c'est désobéir au Seigneur. Eh bien, précisément, nous répondons, on vous demande de travailler à modifier ces principes du monde, à lui donner d'autres impulsions, à y introduire quelque chose de la charité chrétienne, et à y faire pénétrer, grâce à la morale chrétienne, plus de justice. Mais c'est demander l'impossible. Le monde ne serait plus le monde, s'il acceptait Christ, et le fait est qu'il ne l'accepte pas. Des âmes en sont tirées, qui l'acceptent, oui, par la grâce de Dieu, mais toutes les aspirations et tous les programmes ne changeront rien à ce fait, que le chef de ce monde est Satan, même s'il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Le monde a subi plus ou moins profondément l'influence chrétienne, c'est vrai, mais en quelque sorte malgré lui, et en retour il a corrompu et corrompt la vérité chrétienne. De façon à l'intégrer dans ses propres principes en la séparant de Christ, une forme sans réalité. Le changement ne sera amené que par le jugement qui introduira le règne de Christ. Jusque-là, La marche du fidèle sera une répréhension continuelle pour ce monde, Philippiens chapitre 2 verset 15, et Éphésiens chapitre 5 verset 13. Elle fait passer au travers de ces ténèbres un reflet de la lumière de Christ, mais elle ne saurait faire passer ce monde des ténèbres à la lumière. La lumière tranche sur les ténèbres. Si elle se mêlait à elle, elle cesserait d'être la lumière. En écrivant ceci, nous ne méconnaissons nullement les généreuses intentions de ceux qui estiment devoir jeter leur activité de chrétien dans la mêlée des parties terrestres et revendiquer leur part d'autorité ici-bas. Mais ils s'illusionnent. Ou ils ne seront pas supportés, ou ils devront accepter de tels compromis, que leur christianisme n'aura plus grand-chose de Christ, et encore le moment ne tardera-t-il pas, où ce self relaté sera jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu chapitre 5 verset 13. Le Seigneur lui-même a défini, sans équivoque possible, la place des siens ici-bas, et ce n'est pas à nous à la modifier. Ceux-ci sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17 verset 11. 14 et 16. Une telle position ne signifie en aucune manière que nous puissions nous désintéresser du sort du monde. Mais, et on le méconnaît trop, la fonction des enfants de Dieu vis-à-vis de lui est liée à leur qualité d'étrangers célestes, ils participent de la grandeur même de cette qualité. Et leur rôle est efficace dans la mesure où ils gardent pratiquement cette qualité que la grâce leur a conférée. Le bien qu'ils peuvent faire à ce monde dépend du fait qu'ils sont dehors. La vie d'Abraham est une illustration de cette vérité. Comment ne pas être frappé, en la lisant, du côté positif et actif, en faveur du monde, d'une telle existence? Il a montré clairement qu'il recherchait une patrie. Il ne nous est pas dit que ce témoignage vivant et combien éloquent est amené des contemporains d'Abraham à partager son espérance et sa foi. Du moins Manré, Escol, Aner, auprès de qui il a habité, sont-ils ses alliés? Les fils de Heth doivent le reconnaître comme un prince de Dieu au milieu d'eux. Abimélec doit dire « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais ». Genèse chapitre 21 verset 22, et il conclut aussi alliance avec lui. Mais, débordant le cadre de son époque et de son pays, la vie d'Abraham n'est-elle pas devenue, pour la terre tout entière et pour toutes les générations, une des plus puissantes prédications? Le Seigneur, les apôtres, les évangélistes, y puisent eux sans cesse des enseignements à salut. Et en vérité il est le père d'une multitude de croyants, pour leur bonheur éternel. Or, on ne saurait le souligner avec trop de force, il en est ainsi parce qu'il a vécu en étranger. Se fût-il mêlé à son entourage, son témoignage eût été sans valeur, son exemple sans pouvoir, son histoire sans vertu. Telle fut l'existence de Lot à Sodome. Cet individu est venu pour séjourner ici, et il veut faire le juge. Genèse chapitre 19 verset 9. Disent ceux qu'il veut reprendre. Prenons conscience, chrétiens, de l'immensité du champ de travail qui est ouvert devant chacun de nous, pour le bien de ceux qui nous entourent, leur vrai bien. Témoignez pour Christ, le Sauveur de tous, et annoncez à tous la bonne nouvelle. Est plus utile aux hommes que de nous consacrer à quelque aménagement temporaire du présent siècle? Vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Allez, annoncez l'évangile à toutes les nations. Actes chapitre 1 verset 8. Mais si le ciel a perdu sa saveur, il n'est plus d'aucune utilité. Les croyants ne servent plus au bien de ce monde, s'ils mondanisent. Accommoder l'évangile au goût du jour, comme on le fait couramment, hélas, est un triste non-sens. On ne peut prêcher à la fois que ce monde, perdu, a besoin d'un sauveur, et qu'il est capable de se transformer lui-même, offrir le ciel et prétendre améliorer la terre. Mais il y a autre chose encore dans la vie d'Abraham. Nulle action n'a été, en fait, plus opérante que la sienne dans les affaires temporelles elles-mêmes des pays au sein desquels il vivait sans leur appartenir. Elle l'a été précisément et uniquement parce qu'il était là en étranger. Quand les rois de la plaine sont vaincus par la coalition de ceux de l'Orient, la délivrance vient d'Abram, l'Hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, Genèse chapitre 14 verset 13. Elle est obtenue parce qu'elle intéressait Lot, son neveu, mais tous en profitent. Elle est grâce aux hommes exercés d'Abram, 318 hommes, nés dans sa maison, Genèse chapitre 14 verset 14, et à ses alliés, Mamré, Eskol, Aner, qui l'entraînent. Mais sa victoire n'est pas pour lui le moyen ou l'occasion d'affermir sa propre situation, ni de faire valoir sa volonté dans le pays qu'il vient de sauver. Il parle au roi de Sodome comme à quelqu'un qui ne lui doit rien et à qui il ne doit rien. Il n'appartient pas au roi de Sodome d'enrichir Abram. Tout pour ce dernier se passe avec le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, Genèse chapitre 14 verset 22. À son sacrificateur Melchisédek, il donne la dîme de tout, et il est béni par lui. C'est ce qui lui permet ensuite de dire au roi de Sodome. J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut. Il fait passer la grandeur de ce nom devant le chef d'un royaume de grands pécheurs devant l'Éternel, Genèse chapitre 13 verset 13. Il le peut parce qu'il n'est ni son sujet, ni son père. Méditons beaucoup les grandes leçons de ce chapitre 14 de la Genèse. Un peu plus tard, quand Sodome et Gomorrhe sont sur le point d'être détruites, qui donc, sans que les villes coupables s'en doutent, lutte avec l'Éternel en leur faveur, retarde jusqu'à l'ultime moment le jugement inévitable. Arrache même à Dieu l'engagement de les épargner si, condition qui ne se trouva point, quelque juste s'y rencontre. Qui donc, sinon Abraham? Pourquoi? Parce qu'il n'habitait pas la plaine. S'il avait été près de Lot, il n'aurait pu intervenir, et, d'ailleurs, il n'aurait point été visité par Dieu qui lui avait fait connaître le sort arrêté pour Sodome. Le croyant n'est guère apte à démêler les dessous de la politique des hommes, mais il est à même de connaître l'avenir de ce monde et d'agir en conséquence. Nous voyons enfin que, même lorsqu'Abraham est en chute, à Guérar, chapitre 20, lui, et lui seul, constitue l'intercesseur désigné dont Abimélec a besoin. Ces choses ne nous parlent-elles pas? Être des témoins, des messagers de la bonne nouvelle, des bienfaiteurs et des intercesseurs, de telles fonctions ne sont-elles pas de la plus haute portée à l'égard de ce monde? Nul ne peut les remplir que les croyants, enseignés de Dieu, et animés de l'amour même de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jean chapitre 3 verset 16. Mais nous ne les remplirons que séparés, moralement, d'un tel monde. Il ne nous appartient pas de rechercher ou de revendiquer quelque droit que ce soit, civique ou politique. Ce serait dire que nous sommes d'ici-bas. Ce serait aussi refuser de reconnaître que devant Dieu, l'état de ce monde est sans ressources, et qu'il est déjà jugé, lui et son chef, depuis la mort de Christ. Mais nous avons nos devoirs, en tant que séjournant dans cette terre étrangère, devoir à remplir dans la prière et dans la communion avec Dieu, en étranger.